Les premières écoles en plein air apparaissent dans les années 1920, à la croisée des enjeux pédagogiques, médicaux et sociaux. Elles visent à préserver les enfants de l'air pollué et de la tuberculose, tout en réinventant la forme scolaire. Aujourd'hui, 5 ans après la crise sanitaire et les confinements successifs, de nombreux enseignants éprouvent le besoin de sortir de la classe pour faire travailler leurs élèves dehors et les reconnecter au vivant. L'éducation hors des murs connaît actuellement un regain d'intérêt, car elle permet d'échapper à la rigidité de la classe en favorisant un apprentissage en extérieur. Cette pratique ancienne devient une réponse contemporaine aux enjeux éducatifs et au mal-être du système. Sortir devient un geste pédagogique et également militant. En ce mois de mai où la nature foisonne, CAD École vous propose une série thématique autour de l'école dehors.
Bonjour Aurélie Svang, vous êtes membre depuis 2018 un projet de recherche action participative, un RAP, Grandir avec la nature a été lancé et vous en êtes membre du comité de pilotage. Est-ce que, assez rapidement, vous pouvez nous rappeler quels étaient les objectifs ou quels sont les objectifs de cette recherche action participative et le contexte de son émergence?
Oui, bonjour. Alors, l'objectif principal de la recherche action Grandir avec la nature, c'était de s'intéresser aux effets des pratiques scolaires d'éducation avec la nature à l'école. Et il y avait 3 objectifs qui étaient adossés à cette grand objectif, on va dire. Des objectifs de recherche pour produire des savoirs sur la classe dehors. Des objectifs d'action qui consistaient à développer la classe dehors puisque nous étions à un moment où il n'y avait pas eu le confinement et où il n'y avait pas tout cet engouement pour la classe dehors. Donc, on était vraiment avec cette envie de développer ces pratiques pédagogiques à un moment où très peu de personnes pratiquaient. Et puis, enfin, un objectif de recherche-action, il était question de produire des savoirs sur le processus de la recherche-action participative, c'est-à-dire la manière dont on construit la recherche ensemble, la manière dont on cherche ensemble, dont on produit les résultats ensemble. L'émergence de cette recherche-action participative, si on remonte 2 ans en arrière, voire presque 10 ans en arrière, c'est la dynamique Sortir avec un manifeste qui a été émis en 2008 par le réseau donc de la dynamique Sortir et qui a mis en évidence qu'il y avait des enfants qui ne sortaient plus assez dehors. Suite à cette prise de conscience, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées et puis des rencontres entre les acteurs. Et en 2016, il y a eu cette rencontre-là de la dynamique Sortir qui a abouti à l'idée du projet par Marie-Laure Giraud et Dominique Cottereau, ensuite que ce projet a pu commencer en 2018.
Voilà, vous êtes une chercheuse, donc une scientifique. Donc votre rapport dans ce projet était de quel ordre en termes de méthode en particulier? Et puis comment travailler avec les acteurs? Parce que j'imagine qu'il y avait, c'est une recherche-action participative, donc forcément c'est un projet qui se développe avec les acteurs, avec des enseignants. Donc comment on travaille dans ces espaces participatifs et collaboratifs?
Alors, c'est un projet de recherche qui a agrégé 10 partenaires associatifs, qui a été piloté par le Réseau français de l'éducation à la nature et à l'environnement, donc le FREN, qui s'appelait au moment de la recherche le Réseau École et Nature. Parmi les structures participantes, eh bien, il y avait les CMEA, le GREN Bourgogne-Franche-Comté, le GREN Poitou-Charentes, le CPIE de Lozère, l'IFRE, le REB, et puis l'ADES aussi à Lyon, et notre partenaire belge Écotopie. Pour la partie recherche, donc le LIRDEF, le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation.
À Montpellier. Donc
je suis membre, oui, tout à fait, à l'Université de Montpellier. Donc je suis membre de ce laboratoire depuis 2019. Et en 2019, j'ai rejoint le comité de pilotage de cette recherche-action participative. Alors, en 2019, oui, a existé donc ce comité de pilotage avec des représentants des structures partenaires et puis alors comme son nom l'indique, pilotait la recherche, mais plutôt dans une démarche bottom-up, c'est-à-dire provenant se nourrissant en fait des expériences, des terrains et puis aussi en créant les occasions de la rencontre à l'échelle nationale entre les différents acteurs et actrices, et puis en forgeant des outils, des méthodes qui permettent la participation des différentes personnes. Alors, au niveau des terrains, il faut savoir qu'il y avait 65 écoles qui ont été impliquées entre 2018 et 2021 dans 6 territoires de France, hein, et puis un en Belgique. Donc, il y avait une répartition à l'échelle nationale assez importante. Et donc, autour de ce comité de pilotage, ou à partir de ce comité de pilotage, il y a eu 2 autres cercles qui se sont constitués à des échelles plus fines. Donc, à l'échelle du terrain, il y avait les pédagogues-chercheurs qui étaient responsables d'un terrain et qui avaient leurs propres questions de recherche en lien avec la problématique construite collectivement. Donc, j'y reviendrai. Et puis, les accompagnateurs-chercheurs qui étaient responsables d'un territoire donné et qui faisaient le lien entre le comité de pilotage et les pédagogues-chercheurs. Et il s'agissait pour les accompagnateurs de clarifier les questions de recherche, d'apporter des éléments de méthodologie, d'aider aussi pour les pratiques et puis d'organiser la co-interprétation des données. Donc, en fait, puisque la question était aussi celle-ci, ma participation en tant que chercheuse, ça a été au sein de ce comité de pilotage et d'apporter des méthodes. Enfin, là où j'ai eu un apport, je pense, c'est sur la modélisation, la manière dont on a cherché ensemble pour formaliser en fait tout ce processus, puisque même en 2019, ce n'était pas encore très clair en fait les rôles des unes et des autres, puisque la recherche avait commencé en 2018 par une phase de problématisation et ensuite la structuration s'est faite progressivement. On a pu montrer que notre recherche était une sorte de partenariat apprenant, c'est-à-dire qu'on se donnait nous-mêmes les moyens d'apprendre en fait sur ces expériences de terrain de classe dehors, et nous-mêmes on apprenait en fait en même temps. Et pour cela, on a pu montrer qu'on avait un certain nombre de pratiques qui relevaient du partenariat apprenant qui avait déjà été défini avant par Yannick Bruxelles. Donc, on a étendu cette notion au partenariat apprenant d'éducation et de recherche. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on cherche chemin faisant en ayant un certain nombre de vigilances sur la manière dont on construit par des outils, des méthodes et des techniques cette recherche et l'action. Aussi, le fait de partager les représentations, le fait de s'adapter. Alors là, on a été obligé de s'adapter puisque en fait, il y a la Covid qui est venue en plein milieu du projet. Donc, ça, à la fois, ça a mis un peu le bazar sur le recueil des données, et à la fois, ça a été très porteur en fait pour la pratique. Le fait de produire des choses en commun de manière négociée et de vraiment, cette recherche avec des va-et-vient entre le terrain et des moments de rencontre à l'échelle nationale, cet aller-retour a permis aux participants et aux participantes, dans la mesure de leurs possibilités, de vraiment s'impliquer de la problématisation à la co-analyse des données, en passant par l'émission de leurs propres questions de recherche, c'est-à-dire leur propre intérêt pour la classe dehors, par exemple l'intérêt pour le langage ou l'intérêt pour la relation à l'environnement, et puis ce recueil des données qui était accompagné à la fois à l'échelle territoriale et aussi par le comité de pilotage qui donnait les moyens pour que tous ces outils circulent à l'intérieur de la RAP. Et puis, on a terminé par une implication le plus possible à la rédaction finale du rapport de l'ensemble, dans la mesure du possible, puisque des participants et des participantes.
Du coup, j'ai une question, parce que vous avez insisté sur le cercle un peu partenarial et l'ensemble des acteurs inscrits dans ce partenariat. En revanche, on comprend que forcément des enseignants sont impliqués. Et la question est quand même de savoir qui sont ces enseignants impliqués. Sont-ils des enseignants qu'on pourrait appeler acquis ou militants pour la question environnementale, anthropocène et ces questions-là. Ou est-ce que finalement, étaient impliqués, bon an, mal an, au fil du temps, des enseignants pas forcément inscrits dans ce type de perspective et qui ont participé et qui finalement disent peut-être autre chose sur ce rapport à la classe dehors et à la nature.
Alors, c'est très variable. Donc, le premier cercle d'engagement des enseignants et des enseignantes, c'est plutôt à partir de cette dynamique sortir, des personnes qui étaient autour de la dynamique sortir. Donc, la dynamique sortir regroupe aussi des enseignants, des enseignantes, hein, côté d'éducateurs à l'environnement. Et il faut savoir que ça passait par les structures d'éducation à l'environnement, qui étaient en lien avec des personnes dans les académies. Et après, il y avait appel à participation. Donc, il y avait des personnes qui étaient assez proches de la dynamique sortir et donc de cette envie de participer à plus d'éducation avec la nature dès le départ. Et il y avait aussi des enseignantes qui se sont inscrites et qui n'avaient jamais pratiqué la classe dehors et qui ont commencé par le projet et qui n'avaient pas du tout de militance et d'a priori pour cette pratique. Les personnes qui ont participé sur les terrains avaient vraiment des profils relativement variés. Peut-être que ce qui réunit toutes ces personnes, c'est leur appétence pour des expérimentations. Et puis, on peut dire aussi que ça, c'est important. Hein, les enseignants, les enseignantes ont participé sur du temps bénévole. Donc, il fallait bien que, voilà, ils aient de l'appétence pour le sujet tout de même.
Et voilà, pour conclure cet échange, est-ce que, puisque vous parliez d'un rapport ou des éléments conclusifs de cette recherche-action participative, quelles sont les grandes conclusions de cette expérience et de ces années, finalement, malgré les soubresauts de l'actualité, du Covid, etc., de la crise sanitaire, quelles sont les grandes conclusions que vous pouvez tirer de ces années d'expérience?
Alors, on a travaillé sur les effets du processus sur les différents acteurs et actrices du terrain. On a communiqué auprès de collègues enseignants-chercheurs et auprès de collègues enseignants aussi du secondaire, du primaire, sur ce que ça nous avait fait, à nous toutes et tous, finalement, impliqués dans ce projet. J'étais jeune maître de conférence, de fait, puisque c'est mon premier poste à Montpellier. C'est au contact de ces personnes du terrain, en contact des enseignants, des enseignantes, que j'ai pu véritablement constituer mon identité de chercheuse. Ça a été assez intéressant et très porteur de ce point de vue-là, parce qu'il y avait des attentes particulières. Et puis, qu'est-ce que le chercheur, qu'est-ce que la recherche, finalement, apporte au terrain? Et donc, c'était cet accompagnement dans la réflexivité des acteurs, c'était le fait d'apporter quelques lectures parfois, d'éclairer, toujours accompagner, écouter le terrain aussi, faire sortir des savoirs professionnels et puis synthétiser aussi toutes ces données en sachant qu'il y avait déjà eu des synthèses locales hein, aussi par des collègues chercheurs hein, notamment. Et donc, c'est ça aussi qu'on peut apporter, quoi, c'est formaliser, mettre en mots, même si les mots sont déjà employés par ailleurs, mais ce n'est pas pareil quand on les écrit, quoi, puisque là, de fait, ils sont en mesure de circuler. C'était un des objectifs principaux de la recherche action participative, c'était produire des savoirs sur la classe dehors, avec le terrain, mais qui allaient acquérir une légitimité parce que publiés dans des revues scientifiques. Donc, c'est là aussi où nous, on a un rôle à jouer de ce point de vue-là, finalement, puisque nous, on connaît les codes, on sait comment écrire de manière académique, etc. Et en fait, voilà.
Et finalement, comment tout ce travail peut bénéficier à d'autres? C'est-à-dire, on voit bien toutes les transformations du côté des acteurs ou des chercheurs et comment ça a pu transformer dans le processus les unes, les uns et les autres. Mais finalement, comment on peut diffuser, et pas simplement diffuser, mais comment d'autres pourraient s'approprier ce qui a été développé dans ce projet-là?
Alors, la première chose qu'on a publiée dans une revue scientifique, ce n'était pas les résultats de la recherche sur les effets, sur les... c'était la méthode. Et de produire des sortes d'indicateurs de la manière dont on peut qualifier un processus qui fonctionne ensemble, c'est-à-dire quelles étaient les pratiques, en fait. Je pense que dire quelles sont les pratiques qui, voilà, du partenariat apprenant, nous, ça nous paraissait déjà important. Et puis, communiquer sur ces pratiques et puis continuer à travailler avec le terrain, moi, c'est ce que je sais. Continuer à diffuser, voilà, mais après, et à porter aussi, je pense, un peu plus politiquement, peut-être ce rôle du chercheur comme accompagnateur, comme étant aussi proche du terrain, en faisant aussi, en faisant, en continuant à faire.
Ben merci.
Si la thématique de l'école dehors vous intéresse, vous pouvez écouter les 4 autres épisodes de Cas d'école dans les hors-séries du mois de mai. Vous pouvez également retrouver des ressources sur cette thématique dans la rubrique « Pour aller plus loin » sur le site de Cas d'école à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cas-d'école. À bientôt !